Session de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 18 mai 1996, première conférence.
Alors je réponds rapidement à quelques questions. Donc vous demandez sur quoi repose l'affirmation que l'homme est un animal religieux. Oui, il faut faire attention déjà à cette affirmation, hein, parce que justement elle repose sur le fait on va y revenir tout à l'heure, qu'on découvre l'importance de l'adoration. Vous voyez, l'adoration va engendrer en nous la vertu de religion. Vous voyez, après avoir, on va reprendre un petit peu ce que c'est que l'adoration, son ouverture à l'attitude contemplative. Et les actes d'adoration que nous posons engendrent en nous, voyez, sont source d'une vertu. La vertu, c'est une qualité acquise. Et donc, ça implique une stabilité. Mais hier, vous avez vu à propos de l'amour d'amitié ce qu'on appelle les vertus cardinales, les vertus morales cardinales que sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Il y a une vertu propre à l'éthique religieuse, il y en a plusieurs, mais celle qui est fondamentale, c'est la vertu de religion, qui met en moi cet état particulier, justement, d'être un homme religieux. Vous voyez, pour répondre à votre question, l'affirmation que l'homme est un animal religieux, elle repose sur le fait que je découvre l'acte d'adoration. L'acte d'adoration qui est un acte volontaire. Eh bien, l'acte d'adoration produit en moi progressivement cet état, cette vertu de l'homme religieux, cette vertu de religion. Vous voyez, qui va nous permettre de dépasser les deux corruptions de l'attitude religieuse que sont le fanatisme ou bien l'indifférence. Comme toujours, une vertu est un sommet entre deux extrêmes, deux attitudes passionnelles extrêmes. Soit le défaut, soit l'excès. Et par exemple, la vertu de force ou de courage, c'est un sommet et un milieu, un juste milieu, entre les deux extrêmes de l'irascible, que sont la témérité et l'homme poltron. Et la vertu vient corriger en nous la dimension des passions. Et bien, il y a des passions religieuses, voyez. Et les passions religieuses sont les plus terribles de toutes. Parce qu'elle touche en nous ce qui a quelque chose de viscéral, de fondamental. Et c'est donc, quand l'imaginaire s'introduit dans l'adoration et vient corrompre l'adoration, je peux tomber très bien dans un fanatisme religieux. Et le fanatisme, c'est une corruption de l'attitude religieuse par l'imaginaire, où on croit qu'on peut accaparer Dieu et se servir de Dieu pour défendre une opinion. C'est terrible. Et c'est ce qu'il y a de pire, hein. Donc il est nécessaire d'acquérir une vertu qui vient en nous rectifier de plus en plus, grâce à l'adoration, toute la sensibilité religieuse qui est la nôtre. C'est évident que quand on découvre Dieu, ça nous touche. C'est quelque chose qui est précieux. Et donc on risque toujours de partir dans quelque chose d'imaginatif et d'accaparer l'attitude religieuse. Ou bien au contraire, de considérer que l'attitude religieuse n'a aucun intérêt. On devient indifférent à cela. On devient insensible au domaine religieux. Et donc de même qu'on a vu hier, vous voyez, que par exemple la vertu de force ou le courage, c'est la même chose, la force ou le courage, c'est un sommet entre les deux extrêmes que sont d'une part la témérité. La témérité, c'est être dans une telle passion d'irascible qu'on met sa vie en danger sans même s'en rendre compte. Donc c'est pas du tout le courage, mais celui qui va au-devant de n'importe quel danger sans même savoir qu'il se met en danger, c'est pas du courage, c'est de la témérité. Il n'est pas lucide sur le fait qu'il met sa vie en danger. Et la vertu de force implique la prudence, donc la lucidité. On sait exactement ce qu'on doit affronter. Ou bien au contraire, celui qui fuit devant tous les dangers, c'est le poltron. Et la vertu de force vient humaniser notre irascible pour le mettre au service d'un véritable amour spirituel. C'est pour ça qu'Aristote dit, l'homme courageux, il sait exactement au nom de quoi il peut donner sa vie, et il sait exactement ce qu'il perd. C'est pour ça que l'homme courageux ne trouve jamais facile de poser un acte de courage, hein, parce que la vertu de force est parfaitement elle-même face à un danger de mort immédiat. L'homme qui tient debout face à un danger de mort, il est courageux. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de bien voir ça. Donc, vous voyez, la vertu de religion, on le verra, on y reviendra, c'est une vertu morale. C'est la vertu de l'homme religieux, hein, c'est la vertu de l'éthique religieuse par excellence. Alors, ensuite, c'est une autre question. Pourquoi si peu de personnes ont-elles suivi la philosophie d'Aristote ? Et moi, je poserai la question peut-être un peu autrement. Vous voyez, c'est vrai, c'est très mystérieux. Pourquoi ? C'est vrai, hein, que Platon et la philosophie platonicienne avaient beaucoup plus d'influence, historiquement. Et Aristote, c'est quelques-uns qui se comptent sur les doigts de la main. Peut-être, vous voyez, c'est mystérieux de se demander, au fond, pourquoi, hein, la vérité se communique si difficilement. Parce que vous voyez, pour Aristote, oui, pourquoi est-ce qu'on se met à l'école d'Aristote ? Pas pour dire on fait de l'archéologie, surtout pas, ce serait un a priori. C'est parce qu'Aristote dit que sa philosophie repose sur l'expérience. C'est pour ça. Oui. Donc s'il repose sur l'expérience, c'est une expérience que tout homme peut avoir. Et l'expérience humaine n'a pas changé beaucoup depuis Aristote. Donc c'est pas pour dire qu'Aristote a tout dit, que du coup on est relatif à lui et qu'on répète, c'est pas ça du tout. C'est qu'Aristote est un maître en tant qu'il dit explicitement que le point de départ de sa philosophie, c'est l'expérience. Donc, il est quelqu'un qui nous apprend à regarder le réel. Celui qui dit au contraire qu'il part d'une inspiration ou d'une idée, c'est son opinion, donc c'est son système. Et donc, on devient esclave de ça. Ah oui, c'est très mystérieux, c'est vrai. Pourquoi, hein, les hommes ont tant de mal à revenir vraiment au réalisme de l'expérience ? Parce que c'est plus facile de rester dans son opinion, c'est pour ça. Dans son imaginaire, vous voyez. Parce qu'on se satisfait, il y a une cohérence, et au fond, on ne cherche pas jusqu'au bout la vérité, mais c'est très difficile de revenir constamment à l'expérience et de remettre tout le temps en cause sa philosophie en revenant à l'expérience. Mais Aristote n'est pas un système. Hein. Tandis que les autres engendrent des systèmes parce qu'ils ont une idée. Mais une idéologie, ça développe une idée dans une logique de système. Alors, bien sûr, je ne dirais pas que Platon est un système, mais il peut conduire à ça. Alors, pouvez-vous expliquer le fait que la volonté soit dans l'ordre de l'amour ? Mais c'est pas un fait, c'est une expérience. L'acte volontaire, c'est un acte d'amour, premièrement. Et deuxièmement, ça implique une efficacité. Et donc ça, vous voyez, c'est le petit Descartes qui est derrière, oui. Parce que Descartes nous a mis dans la tête que la volonté est une volonté d'efficacité. On croit que l'homme de volonté, c'est l'homme qui se maîtrise avant tout, mais non. L'homme de volonté, c'est d'abord celui qui aime d'un amour spirituel. Et en dépassant tout le conditionnement passionnel. Donc, oui, on saisit d'abord l'acte volontaire, et c'est pour ça qu'on parle d'une éthique de l'amour d'amitié, dans l'émergence d'un amour spirituel au-delà du conditionnement sensible et passionnel. Oui, au-delà, ça ne veut pas dire qu'on le supprime, mais oui, on le dépasse. J'aime l'autre pour lui-même, l'amour spirituel. Et c'est ça l'acte volontaire premier. Oui, j'aime l'autre et je veux l'aimer pour lui-même. Parce que je découvre sa personne. Donc, vous voyez, je dépasse tout le conditionnement sensible et passionnel qui enveloppe cet amour spirituel. Et c'est évident que nos actes de volonté sont toujours enveloppés par un conditionnement sensible, imaginatif, passionnel, etc. Donc, il faut saisir l'émergence de la volonté au-delà de ce conditionnement-là. Et ce qu'il permet, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est ce qui structure notre affectivité. Donc c'est la lucidité de notre intelligence qui nous permet de distinguer notre conditionnement sensible et passionnel de l'émergence d'un amour spirituel où on aime l'autre pour lui-même. Et c'est pour ça que c'est si important. Et le rôle de la philosophie éthique, c'est de nous apprendre à devenir lucides sur notre affectivité. Donc de bien discerner en nous ce que c'est qu'un véritable amour spirituel. Et c'est la chose élémentaire. Et c'est ce que dit Aristote. Il dit, s'il n'y a pas ce minimum de lucidité, on ne peut pas comprendre ce que c'est que l'éthique. S'il n'y a pas l'émergence d'un amour spirituel, il n'y a pas d'éthique, parce qu'il n'y a pas d'acte volontaire. Mais on reste dans un conditionnement. Vous savez, c'est cette remarque d'Aristote qui n'est pas commode à entendre, hein, quand il dit « Tout ce qui est commun à l'homme et à l'animal n'est pas proprement humain. » Or, la vie végétative est commune à l'homme et à la plante, elle n'est donc pas proprement humaine. La vie végétative, c'est la vie de nutrition, de croissance et de génération. Tout ce qui est de la vie sensible est commun à l'homme et à l'animal, n'est donc pas proprement humain. C'est-à-dire la sensation et l'imaginaire. ce qui est proprement humain, c'est l'esprit, donc l'intelligence et la volonté. C'est ça qui... Donc il n'y a d'éthique que s'il y a l'émergence d'un acte volontaire au-delà de cela. Et donc, c'est parce que c'est lors de l'expérience. Le premier acte volontaire, c'est l'émergence d'un amour spirituel par rapport à la volonté. Puis deuxièmement, ça va exiger une certaine efficacité, parce que ce bien, il faut le conquérir. Mais c'est second. Mais ce sont les stoïciens, puis Descartes, qui renversent l'ordre et qui font d'abord de la volonté une volonté d'efficacité, parce qu'ils suppriment l'amour spirituel. Et pour, parce que pour les stoïciens, il n'y a qu'un amour passionnel. Et comme l'amour passionnel est mauvais, il faut le rejeter. Vous voyez, donc, c'est au fond, vous voyez, peut-être la distinction qu'il faudra mieux comprendre, une distinction qui est capitale en philosophie. Il faut distinguer, et je prends le terme grec, entre le tiesti et le pos. Je traduis le qu'est-ce et le comment. Et c'est une distinction capitale en philosophie, ça. Qu'est-ce que c'est que la volonté ? Et pour comprendre ce qu'est la volonté, il faut que je regarde son objet. C'est-à-dire, oui, ce qui la spécifie. Et autrement dit, vous voyez, qu'est-ce qui est propre à la volonté ? Qu'est-ce qui est ce vers quoi elle est ordonnée ? C'est le bien spirituel. Mais comment je pose un acte volontaire ? Pose. Quand j'aime d'une manière humaine, ça implique toujours la dimension des passions. C'est le comment, c'est mon conditionnement humain. Pour moi, puisque mon âme spirituelle est unie à un corps, j'aime toujours dans un conditionnement sensible et passionnel. Mais ce que j'atteins par la volonté dépasse cela. J'espère que vous voyez bien cette distinction entre spécification et exercice. C'est une distinction capitale en philosophie. Et ça, Aristote est le seul à la faire. Platon ne la fait pas, et aujourd'hui, on la refuse. C'est ce que dit Hegel. Hegel dit, c'est l'exercice qui donne la détermination. Donc c'est le comment qui fait comprendre la détermination. C'est pour ça qu'il dit, c'est énorme, il dit, le contenu de la philosophie, vous voyez, le casse, le contenu, ce n'est rien d'autre que la méthode. Donc la méthode donne le contenu, et c'est ce que reprend encore Husserl. Là. En regardant comment je connais, je crois que je saisis ce que je connais. Mais c'est faux, ça, vous voyez. Il faut distinguer ce que je connais et la manière dont je le connais. Donc, par exemple, au point de vue de l'amour, distinguer la personne que vous aimez, celui, celle que vous aimez, et la manière dont vous l'aimez. Et si vous ramenez l'amour à la manière d'aimer, c'est le positivisme. Et alors, c'est pour ça que c'est capital de bien distinguer, de saisir qu'est-ce qui vient spécifier, déterminer, donc, me permettre de comprendre ce qu'est la volonté, qui se distingue par son objet de toute la vie sensible, bien que dans le conditionnement, elle s'exerce toujours en étant liée au sensible. J'espère que vous voyez. C'est comme pour l'intelligence. Oui. Qu'est-ce que j'atteins en propre par l'intelligence ? L'être. Et quand je touche cette table et je dis ceci est, ce n'est pas mon toucher qui dit ceci est, c'est l'intelligence qui se sert des sensations. Par mes sensations, j'atteins quoi ? Oui, quand je touche, il faut être lucide là-dessus. Quand je touche quelque chose, qu'est-ce que je perçois par, la sensation ? Mais la qualité de la table, c'est froid ou c'est chaud, c'est lisse ou c'est rugueux. C'est l'intelligence qui, se servant de la sensation, atteint l'existé de la réalité. Ceci que je touche est. Vous voyez ? Qu'est-ce que j'atteins par l'intelligence ? L'être. Mais comment je l'atteins ? En me servant des sensations. Je n'atteins pas l'être en soi comme une espèce d'idée dans mon berceau. L'enfant qui naît ne dit pas l'être, l'être, l'être. Non. Il commence par voir, par toucher, par entendre. Et puis, petit à petit, il s'éveille. Et l'intelligence s'éveille à travers les sensations. Vous voyez, ça, c'est son conditionnement, c'est son comment. Mais qu'est-ce qu'elle connaît en propre ? Ce qui est. Vous voyez, c'est toujours la même distinction. Elle est essentielle. Vous voyez, si je donne des termes un peu techniques, entre la détermination, ce qui vient déterminer l'intelligence, la spécifier, et l'exercice. Bien, je pourrais dire, voyez, entre le contenu, ça c'est un peu moins précis, mais c'est pour mieux vous faire comprendre, entre le contenu et la méthode. Alors oui, c'est très intéressant parce qu'une connaissance scientifique ne peut plus distinguer ça. Elle n'atteint un contenu qu'à travers une méthode, parce qu'il y a une hypothèse de recherche. Oui, c'est pour ça que c'est très intéressant, ça. Oui, parce que les mathématiques le mathématicien se donne son objet. Donc pour lui, sa méthode, qui est l'abstraction mathématique, lui donne le contenu. Et c'est très éclairant. C'est pour ça qu'à partir du moment où on considère que la connaissance scientifique est le modèle de la connaissance, connaissance scientifique moderne, hein, j'entends, on ne peut plus distinguer détermination et exercice, contenu et méthode. Et on a, alors, on risque de tomber dans le positivisme si on ne distingue pas ça très nettement. Oui, si on dit qu'il n'y a pas d'autre connaissance que les connaissances scientifiques, on dira ça. Or, c'est ce que fait Descartes. Hein. Pour Descartes, le modèle de la connaissance, c'est la connaissance scientifique. C'est pour ça que pour lui, le contenu vient de la méthode. Vous savez, Descartes a écrit une œuvre qui est quand même très importante, le discours de la méthode, où il montre que le contenu dépend toujours de la méthode. Et Husserl reprend cela dans ce qu'il appelle... Oui, alors, c'est pas commode, vous voyez, hein. Il y a Descartes qui écrit les méditations et le discours de la méthode. Et Husserl écrit les méditations cartésiennes. Vous voyez, alors, oui, méditation sur les méditations, vous voyez ce que ça donne. Hein. Alors, ce n'est plus que l'exercice qui donne le contenu. Vous voyez, ça va très loin, ça, parce que c'est une des choses d'aujourd'hui dont on n'arrive pas à sortir. Vous voyez, alors, on reste dans le vécu, par exemple, vous voyez. On dira, ma manière d'aimer commande celui que j'aime. Mais non. La personne, elle existe avant que vous l'aimiez, et c'est pas votre manière d'aimer qui la détermine, vous comprenez. C'est pas parce que vous aimez l'autre qu'il est bon. C'est parce qu'il est bon que vous l'aimez. Et le bien est objectif, il vous devance. La personne est autre que vous. Si vous dites, elle est bonne parce que je l'aime, oui, c'est votre manière d'aimer qui détermine l'autre. Vous devenez un tyran. Ça, c'est très éclairant comme distinction. Elle est capitale. Hein, donc, j'espère que vous voyez un petit peu hein, comment distinguer ce que c'est que la volonté. Hein, elle émerge du sensible par ce qui la spécifie. Mais dans son conditionnement, elle s'exerce en étant liée au sensible. Dans son comment, si vous voulez. Alors, il y a une question, des questions, hein. Sur l'adoration, donc c'est bien, parce que comme ça on peut... Ah oui, il y en a une un peu plus rapide. L'adoration peut-elle avoir lieu dans toutes les religions? Ah oui. Quelle en est la conséquence au niveau de l'éthique religieuse? Et c'est ce que j'essayais de vous montrer, vous voyez, hier, hein, donc je reprends ça rapidement, ça nous remet dans notre sujet. Mais justement... Ce qui caractérise l'attitude religieuse, c'est l'adoration. C'est pour ça que je vous ai dit, vous voyez, que je peux me servir des traditions religieuses pour comprendre ce que c'est que l'adoration, du point de vue pratique. Alors après, vous dites, hein, quelle en est la conséquence au niveau de l'éthique religieuse? Moi, je dirais un petit peu autrement, je dirais, vous voyez, la philosophie éthique qui cherche à comprendre... Oui, dans une recherche de vérité, quelle est la finalité de l'homme? Elle s'interroge là-dessus, indépendamment des traditions religieuses. Les traditions religieuses enveloppent le problème. Mais comme philosophe, je reviens à l'expérience que tout homme peut avoir et cherche à la décanter de tout le conditionnement, justement. Oui. Donc je vais essayer de regarder ce qu'il y a comme contenu de vérité dans ces traditions religieuses pour essayer de faire une philosophie de l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'acte d'adoration pour l'homme face au Créateur, mais indépendamment du contexte culturel? Et c'est pour ça hein, qu'on peut dire que la philosophie vient corriger et purifier de l'intérieur la culture, et notamment la dimension religieuse. Le philosophe n'est pas relatif à la culture. La philosophie, c'est la philosophie de l'homme. Or l'homme, qu'il soit africain, européen, américain ou asiatique, hein, c'est un homme. Et la culture est seconde. Vous voyez, on retrouve la même chose, vous voyez, le tiesti et le pos. La culture, c'est un pos, c'est un comment. Ce n'est pas quelque chose qui détermine l'homme. Vous voyez. Il n'y a pas un homme africain différent de l'homme européen, c'est le même homme. Bien qu'il y ait un contexte culturel différent. Et donc, je ne suis pas philosophe d'abord par rapport à une culture. Je cherche à comprendre ce qu'est l'homme. Vous voyez, par conséquent, si je cherche vraiment la vérité sur ce que c'est que l'attitude religieuse pour l'homme, oui, l'homme, qu'est-ce que c'est qu'adorer? Bien, je vais purifier de l'intérieur toutes les traditions religieuses qui sont véhiculées par telle ou telle culture. Donc en distinguant en elles, vous voyez, ce qui est imaginatif de ce qui est réel de ce qui est une vérité. Et pourquoi je peux dire ça ? Parce que dès l'instant où les traditions religieuses sont faites par les hommes, elles véhiculent toute une dimension imaginative, etc. Enfin, elles sont sous un mode symbolique. Et donc, elles peuvent véhiculer des quantités de choses très imaginatives, vous voyez, qui, en plus, en se répétant, vous voyez, vont se diluer, par exemple. Mais, par exemple, vous voyez, hein, on fait tel geste liturgique, on ne sait plus du tout pourquoi, on a toujours fait ça, mais on ne sait plus pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, vous voyez ? Pourquoi est-ce qu'on fait ce geste, vous voyez ? Pourquoi il y a cette coutume ? Ah, on a toujours fait comme ça. Les ancêtres nous ont dit qu'il fallait faire comme ça, mais on ne sait plus du tout qu'est-ce que ça signifie. Et d'où une recherche de vérité, pour revenir à la source. Ce geste liturgique, qu'est-ce qu'il signifie vraiment ? Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans un monde matérialiste, et donc toutes les choses se corrompent. Oui. Et il y a des espèces de... Hein, les choses se transforment à toute vitesse. Donc on ne voit plus très bien l'origine des choses. Donc oui, le philosophe quitte toute cette enveloppe imaginative pour revenir à ce qu'il y a de réel et de contenu, de vérité dans l'adoration. Alors, deuxièmement, oui, qu'est-ce que ça a comme conséquence au niveau de l'éthique religieuse ? Ça veut dire, oui, que l'attitude religieuse est humaine. Et donc, vous voyez, le contact avec les autres religions, si nous sommes chrétiens, il se fait par la philosophie. Et c'est, oui, c'est le sens, hein, c'est le sens du geste du Saint-Père à Assise. Vous voyez, parce que tout le monde a crié, hein, à je sais pas quoi, au syncrétisme. C'est pas ça du tout. C'est comprendre que dans toute attitude religieuse, il y a un fondement de vérité qui est que l'homme est une créature de Dieu faite pour adorer Dieu. Ça, c'est pas propre au christianisme. Le chrétien, il adore Dieu d'une manière particulière, je vais y revenir. Et donc, l'attitude religieuse, l'adoration, elle est humaine. Et là, c'est pour toute religion. Et donc, quand je regarde une tradition religieuse, je vais voir son degré de profondeur, au fond, à la conception qu'elle a de l'adoration. À la profondeur que les hommes accordent à l'adoration. Par conséquent, à la découverte de la transcendance de Dieu comme créateur. Est-ce qu'il y a dans cette tradition religieuse un sens de Dieu comme créateur, et par exemple, un sens du Dieu unique ? C'est évident que philosophiquement, le polythéisme est imaginatif. Si Dieu existe, il ne peut être qu'unique. Donc, oui, la philosophie doit critiquer là ça. Le polythéisme n'est pas humain, c'est imaginatif. C'est une projection psychologique sur Dieu. Si Dieu existe, il est l'être premier, il ne peut être qu'unique, c'est immédiat. Et le premier qui saisit ça en Grèce, c'est Xénophane. Vous voyez, c'est intéressant, vous voyez, ce petit exemple-là. Donc, la philosophie va donc venir purifier ça et me donner un sens plus profond de l'adoration. Oui, mais ce serait une des grandes questions d'aujourd'hui, c'est celle face à l'islam, vous voyez. La philosophie doit critiquer l'islam. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans cette tradition religieuse, est authentique, est authentiquement humain ? Est-ce qu'il y a vraiment un sens vraiment de l'adoration ? Qu'est-ce qui est imaginatif dans la vision qu'on a sur Dieu ? Et moi, j'ai entendu ça il y a 3 mois, justement, d'un très grand musulman, quelqu'un qui est vraiment un musulman pieux, hein, et qui disait ça. Il était fasciné par le fait que, comme philosophe, on puisse coopérer entre musulmans et chrétiens. Il dit, mais c'est génial, ça. Parce que là, je vois que vous parlez de Dieu plus profondément comme homme que ce que je dis moi comme musulman. Ah, comment ça se fait ? Vous ne parlez pas comme chrétien. Vous ne parlez pas du Christ comme étant le Fils de Dieu. Ça, je ne le reconnais pas, c'est votre foi. Mais vous parlez de Dieu en philosophe plus profondément que ce qu'on peut dire dans l'islam, de ce qu'on voit dans le Coran. Comment ça se fait ? Et ça intrigue. Donc, il dit, ah, mais alors il y a une recherche de vérité qui prouve que je peux aller plus loin. Et c'est très important, oui. Hein. Il faut voir ce qu'il y a de positif. Et ce qu'il y a de positif, c'est le sens de l'adoration. Et ensuite, qu'est-ce qui est faux comme vision de Dieu ? Il faut essayer de trouver le contact, vous voyez, toujours. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien, hein, quelle est la conséquence au niveau de l'éthique religieuse. Ça implique qu'on discerne dans toute tradition religieuse ce qu'il y a de vrai. Et donc le critère, hein, c'est le sens de l'adoration. Quelle est vraiment la vision qu'on a de l'adoration ? Vous voyez, or, parler du polythéisme, ça supprime l'adoration. Alors, je réponds encore rapidement à ces questions aussi, et puis je continue, hein. Vous avez essayé de mettre en lumière l'adoration comme étant le fondement d'une véritable éthique religieuse. Dans un second moment, vous avez souligné quelques effets positifs de l'adoration dans notre vie pratique. Pouvez-vous essayer de préciser s'il y a une authentique manière d'adorer Dieu ? Ben oui. Pouvez-vous aussi nous préciser quel doit être le contenu explicite de notre geste, notre acte d'adoration à l'égard de Dieu ? C'est au niveau de l'éthique religieuse seulement. Mais justement, et c'est ça, l'acte d'adoration, c'est cette reconnaissance, hein, c'est ce geste volontaire conscient et explicite par lequel je reconnais ma dépendance actuelle à l'égard du Créateur. Et c'est ça, l'acte d'adoration. Et donc le contenu positif de l'acte d'adoration, c'est ça. C'est de reconnaître que actuellement, dans tout ce que je suis, je dépends de l'être premier Créateur. Donc c'est un acte qui implique un amour, je vais reprendre ça dans un instant, et puis qui implique aussi un remerciement, je dirais une certaine action de grâce religieuse. Vous voyez pourquoi ? Parce que quand je découvre l'être premier Créateur, je découvre quelqu'un dont je dépends comme un père. Et donc, tout ce que je suis vient de lui. Et donc, ce n'est pas reconnaître une dépendance comme une espèce d'impératif catégorique, ah oui, je reconnais que je suis esclave de quelqu'un. Non, c'est reconnaître que je dépends d'une source. Et donc, c'est un acte d'amour, vous voyez, par lequel je rejoins le Père, la paternité de Dieu. Et, vous voyez, et ça, déjà, les Grecs le disent. Hésiode dit au 8e siècle avant Jésus-Christ, Zeus, père des dieux et des hommes, le premier parmi tous les dieux. Et donc, même s'il est encore polythéiste, il y a un sens d'un premier qui est père, source. Et il y a l'hymne à Cléante, qui est le point de départ du stoïcisme, avec l'hymne à Cléante, c'est extraordinaire. Je veux dire, l'hymne à Zeus de Cléante. C'est la grande prière du stoïcisme qui reconnaît Dieu comme père, source de lumière et d'amour. Et ce n'est pas un chrétien qui dit ça, c'est 3 siècles avant le Christ. Vous voyez, c'est important de voir ça. C'est un acte d'amour par lequel nous tournons vers le Père comme étant le bien premier, source de tout amour, source de toute lumière, le Père de notre esprit. En quoi l'adoration diffère-t-elle de la contemplation ? Je vais justement y venir. Pouvez-vous nous préciser où se situe la nuance ? Bon, je vais y revenir. Quelle est la différence entre l'adoration éthique religieuse et le niveau de l'éthique chrétienne ? Alors ça, c'est pour demain. Donc vous poserez la question au Père Philippe. Qu'est-ce que c'est que l'adoration chrétienne ? Et justement, l'adoration va être la pierre de touche qui ouvre l'éthique religieuse à l'éthique chrétienne. Si j'adore Dieu, je deviens capable... Mais je me dispose à recevoir quelque chose qui me dépasse, ce qui est la foi. Et l'adoration, c'est se tourner vers Dieu, donc c'est se mettre en état d'être capable de recevoir une révélation qui vient de Dieu. Les chrétiens ont une manière propre d'adorer, différente de celle des autres traditions religieuses. Oui, on veut justement, il faut bien distinguer le niveau d'une éthique humaine fondamentale, qui est l'homme, dans son rapport avec l'homme. Une éthique religieuse, qui est l'homme qui s'ouvre à Dieu, à celui qu'on appelle Dieu, et l'éthique chrétienne, qui repose sur la foi. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire que le christianisme, ce n'est pas d'abord une question de religion, c'est d'abord une question de foi. Ce qui est propre aux chrétiens, c'est la foi dans une révélation. Et il achève par là la révélation faite à Moïse, à Abraham et à Moïse. Et comme chrétien, je dois dire, l'islam n'implique pas de révélation. C'est contraire à la foi chrétienne que de dire ça. Parce que le Christ achève la révélation. Et je peux déjà le dire comme philosophe. Comme philosophe, je pourrais comprendre comment ça ne peut pas être une révélation. C'est une tradition religieuse, mais ce n'est pas une révélation. Il faut bien faire attention à ça. Oui. Donc il n'y a pas de foi dans l'islam. Et contrairement à ce qu'ils disent. Parce que vous savez, ils disent, oui, vous devriez reconnaître, puisque nous disons que Mahomet est le dernier des prophètes. Donc le Christ dit, promet d'ailleurs, oui, c'est ce qu'on vit en ce moment au point de vue liturgique. Le Christ promet un paraclet, l'Esprit Saint, c'est Mahomet qui est le paraclet promis par le Christ. Donc c'est l'achèvement de la révélation. C'est pour ça que c'est important de bien voir, oui. S'il y a une différence, était le niveau de ce qu'est l'adoration au niveau de la manière d'adorer. C'est que j'adore avec le Christ. Donc le chrétien, il a l'adoration en esprit et en vérité. Ce que dit Jésus à la Samaritaine. Dieu est esprit et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Donc c'est l'adoration du Christ à la croix qui est l'adoration chrétienne. Alors, vous verrez demain ce que ça implique. C'est source d'une éthique nouvelle. Qui implique le martyr, la pauvreté, etc. Oui. L'esprit de pauvreté est propre au christianisme. On va voir ça tout à l'heure. L'éthique religieuse implique l'humilité, mais pas la pauvreté. Alors, donc je continue ce que j'ai commencé hier soir. Vous voyez, je vous disais que c'est bien vraiment l'acte d'adoration qui est ce qui nous introduit dans cette nouvelle dimension de l'éthique, hein, l'éthique religieuse. Donc c'est bien, oui, je dirais la pierre de touche, hein, et le passage se fait là, entre une éthique fondamentalement humaine et une éthique humaine parfaite, en ce sens qu'elle découvre le bien premier et ultime de l'homme, celui qu'on appelle Dieu. Donc oui, c'est bien le passage, on peut dire que l'amour spirituel est le fondement de l'éthique de l'amitié comme de l'éthique religieuse. C'est l'amour spirituel qui est le fondement. Tandis que l'éthique chrétienne, le fondement est la foi. Donc vous voyez, c'est tout à fait différent. L'éthique de l'amour d'amitié et l'éthique religieuse ont le même fondement qu'est l'amour spirituel. Donc il y a un amour fondamental, on pourrait dire il y a un amour premier, hein, qui s'explicite par rapport de l'homme par rapport à l'homme, donc qui se noue dans une éthique de l'amour d'amitié, qui implique un choix réciproque. Et puis il y a un amour spirituel ultime, hein, on peut dire de la créature pour le créateur. Oui, je dis il est ultime dans l'ordre de découverte, mais il est plus fondamental objectivement. L'amour d'adoration est quelque chose de plus radical que l'amour d'amitié. Et ça n'implique pas une amitié avec Dieu. C'est la reconnaissance actuelle et volontaire. Et puisqu'elle est volontaire, elle implique une lucidité de cette dépendance par rapport à Dieu. Et c'est donc bien, vous voyez, actuer ma volonté dans un amour spirituel, naturel. Vous voyez, saint Thomas dit, hein, un amour de la partie pour le tout. Alors, il faut bien faire attention à ça, parce que c'est très équivoque si on prend ça philosophiquement. Et Dieu... second, ce qui met en moi cette orientation fondamentale et naturelle vers celui qui est la source de mon être. Et donc l'adoration, c'est prendre conscience de ce fait que je n'existe qu'en dépendance actuelle à l'égard de l'être premier. Donc vous voyez, ne pas reconnaître cette dépendance dans l'ordre de l'adoration, c'est vivre dans un état objectif de non-vérité. Adorer, c'est reconnaître cette vérité fondamentale que je n'existe qu'en dépendance de l'être premier. Ce que je ne découvre, important, vous voyez, de voir ça. Hein. C'est un acte, vous voyez, d'amour, hein, et de remerciement parce que Dieu m'a créé par amour. Oui. C'est ça qu'on peut dire. Hein. Pourquoi est-ce que c'est un acte d'amour spirituel par rapport à Dieu? Parce que dans la sagesse philosophique, je découvre que le Créateur me crée par surabondance d'amour. Oui. Je ne suis pas nécessaire au Créateur. Et c'est là la différence avec l'amour d'amitié. Hein. Et il me crée par surabondance d'amour et dans sa sagesse. Je découvre donc en moi, oui, dans un regard de sagesse, que tout ce que je suis dépend premièrement de la sagesse de Dieu. Et c'est très éclairant, hein, parce que ça vous donne un fondement radical de l'amour de soi. Et s'aimer soi-même, c'est comprendre radicalement, grâce à l'adoration, qui on est dans le regard de Dieu. C'est pas... Et vous voyez, c'est très important parce que les Grecs disent ça. Ils disent que le fondement de l'amour d'amitié, enfin, que dans l'amour d'amitié, on aime l'autre toujours aussi à la manière dont on s'aime soi-même. Que selon le respect qu'on a pour soi, on respecte aussi l'autre. Et que ne pas respecter l'autre, ça manifeste qu'on ne se respecte pas soi-même. Eh bien, prendre conscience et comprendre, vous voyez, tout en restant dans cette obscurité, hein, mais, parce que je n'ai pas l'expérience de Dieu, mais dans l'adoration, que Dieu comme créateur est plus présent à moi-même que moi-même, qu'il me crée par surabondance d'amour. Je ne suis pas nécessaire pour lui. Je n'ajoute rien à Dieu. Et qu'il me crée dans sa sagesse, comme un père, me fait prendre conscience dans l'adoration que c'est un acte d'amour et d'action de grâce. Voyez, et quand je comprends que ce que je suis, ça dépend d'un acte qu'un acte d'amour et de bonté surabondante, je ne peux que aimer en retour. Vous voyez, c'est donc pas, hein, du tout Voir Dieu comme un tyran qui m'impose quelque chose, c'est le voir comme la source qui me crée par amour. Mais à un amour, on ne peut répondre que dans l'amour, vous comprenez. Mais ce n'est pas un amour de réciprocité qui fait que Dieu me doit quelque chose, vous voyez. C'est un amour naturel de reconnaissance que tout ce que je suis vient de la gratuité de l'amour de Dieu pour moi. C'est très important à comprendre. Il y a deux gratuités. Il y a la gratuité fondamentale de l'amour de Dieu pour moi comme créateur. Puis il y a une gratuité encore de surabondance qui serait celle de l'éthique chrétienne. L'amour du Christ et de Dieu comme Père qui me sauve. Mais il y a une gratuité fondamentale. C'est que Dieu m'a créé par pure surabondance d'amour. Et c'est étonnant ça. Et donc, dans l'adoration, on rejoint ce regard de surabondance d'amour de Dieu pour nous, qui est présent à nous comme un père. Et ça, les Grecs déjà l'ont saisi. Je vais vous lire tout à l'heure un passage d'Aristote qui est extraordinaire là-dessus. Parce que vous voyez, on dit souvent, c'est partie des slogans habituels, vous savez, qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète. Alors on dit, vous voyez, ça vient de Chou, c'est assez récent, oui, c'est lié à toute une vision exégétique assez fausse, où on dit, ah oui, on a hellénisé l'évangile. Donc, or, la conception que les Grecs ont de Dieu, c'est un Dieu indifférent au monde, qui n'a aucune connaissance de l'homme, qui ne sait pas ce que c'est que la souffrance, Dieu sans idée du mal. Et donc, par conséquent, ce n'est pas le Dieu chrétien. On ne peut pas assumer, pour comprendre l'évangile, la conception que les Grecs ont de Dieu, parce qu'ils voient un Dieu comme une espèce de Zeus qui est au-dessus du monde et qui se fiche complètement de ce qui se passe en dessous. Ah, ce n'est pas du tout ça. Les Grecs n'ont pas du tout cette conception de Dieu. C'est ne rien comprendre que de dire ça. Et je vais vous lire un passage d'Aristote, vous verrez que c'est juste l'inverse. Dieu, s'il est le Créateur, il nous crée par amour. Et il nous regarde comme un Père. Et il nous aime. Et c'est en s'aimant lui-même qu'il nous aime. C'est en se connaissant lui-même qu'il nous connaît. Et il nous connaît dans sa propre connaissance. Parce qu'il ne peut pas connaître quelqu'un d'autre que lui-même, vous comprenez. Puisque connaître quelqu'un, c'est dépendre de lui. Aimer quelqu'un, c'est dépendre de lui. Mais Dieu ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre que de lui-même, puisqu'il est premier. Et Dieu ne peut pas aimer quelqu'un d'autre que lui-même. Il serait relatif à quelqu'un qui est plus grand que lui. C'est contradictoire. Et c'est... On n'a pas de mots pour l'exprimer, vous voyez, parce qu'on ne peut pas savoir ce que c'est que la contemplation de Dieu. On ne peut pas savoir ce que c'est que l'amour que Dieu a pour lui-même. C'est un mystère. Mais on peut dire que Dieu ne peut que s'aimer lui-même, s'il est tout à fait premier. Et c'est pas du tout une espèce de repli sur soi, c'est pas ça. Et ça, c'est la caricature, justement, humaine. Le repli sur soi qui fait qu'on... Il y a notre nombril et puis rien d'autre, et tout tourne autour, vous voyez. Non, c'est pas ça. Et c'est intéressant, parce que vous voyez, ça, c'est quelque chose du bouddhisme. Et quand Dieu se contemple lui-même, c'est pas le Bouddha qui se contemple lui-même, vous comprenez. C'est un amour éternel de Dieu pour lui-même. Et c'est dans cet amour de lui-même qu'il nous aime et qu'il nous crée. Et Dieu, en nous aimant, nous rend bon. Vous voyez, c'est ça le propre de Dieu. Nous, nous aimons quelqu'un qui est bon objectivement. Et donc, c'est sa bonté qui est source de notre amour. Et donc, nous dépendons de lui. Dieu, en aimant, rend bon celui qu'il aime. Donc, tout ce qu'il y a en nous de bonté, il y a une bonté substantielle en nous, en tant que nous existons. Ça provient radicalement de l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est très important de voir ça. Donc ça, c'est le premier aspect, vous voyez. C'est pour ça que je dis que bien que l'adoration, c'est bien quelque chose qui nous stabilise radicalement. Parce qu'alors, on saisit dans cette présence quelque chose qui est vraiment la source, ce sur quoi, ce dont nous dépendons, et le roc sur lequel nous nous appuyons. Donc source d'une stabilité radicale. Et c'est pour ça que je vous ai dit hier soir que c'est ça qui petit à petit corrige toute angoisse. C'est le remède souverain, l'adoration. Il n'y en a pas d'autre. Il y a peut-être des recettes momentanées, oui, ou le retour à l'expérience pour nous stabiliser. Oui, je vous ai dit, l'angoisse, c'est l'oubli de l'expérience. Donc il y a quelque chose qui nous fait sortir de l'angoisse, c'est le retour au réel sensible. Vous voyez, à regarder ce qui se passe, toucher quelque chose. Vous voyez, ça nous remet dans le contact avec le réel. Mais le réalisme le plus profond, c'est celui-là. Dans l'adoration, je rejoins, comme dit saint Augustin, la réalité avec un grand R, qui est Dieu. Dieu, c'est la res. La res par excellence. C'est la réalité existante première, dont tout dépend dans son être. Et donc je trouve là la stabilité fondamentale. La vraie stabilité monastique, c'est celle de l'adoration. Elle est intérieure. Oui. Parler de stabilité extérieure sans qu'elle soit vécue dans l'adoration, c'est du pharisaïsme. Et c'est le vieux garçon qui ne veut pas quitter son petit couvent. Ça, c'est pas ça du tout. très important, vous voyez, parce que hein, ce qui nous stabilise divinement, c'est l'adoration. C'est pas un lieu. C'est pas notre petit confort, nos petits conditionnements. Oui. Et quand il y a des bouleversements dans notre vie, la seule chose qui nous stabilise, c'est l'adoration. Vous voyez, c'est important de voir ça comme fondement. Oui. Toute l'éthique religieuse repose là-dessus. Vous voyez, c'est pour ça que je crois important de bien voir ça, qu'ensuite que l'adoration, elle est justement, elle est quelque chose qui est unique par rapport à Dieu. L'adoration, c'est le geste unique pour Dieu. On ne peut pas adorer quelque chose d'autre que Dieu. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, voyez, qui est une caricature de la religion. Et vous savez, il faut être sensible à ça. Vous savez, dans le langage contemporain, que j'en dise « Ah, je t'adore ouais. », il faut avoir une horreur de ça. Ouais. Ou bien « Ah, c'est adorable, j'adore le chocolat ouais. ». On ne sait plus ce qu'on veut dire. Mais on confond la passion du chocolat et l'adoration par rapport à Dieu. Non, on n'adore pas le chocolat. À moins qu'on soit d'une secte qui adore le chocolat. Oui, mais... Je ne sais pas si c'est ce qui se passe dans certains pays. Oui, mais... Et c'est important de voir ça. Hein. Mais le langage dit quelque chose. Mais ça montre combien on n'a plus du tout le sens de ce qu'est l'attitude religieuse. Qu'employer ce mot sans que ça nous rende sensible à ça, il y a quelque chose qui cloche. Ne plus sentir que c'est l'acte réservé à Dieu. Alors bien sûr, vous direz que c'est uniquement le langage qui vient s'exprimer. Oui, mais ça dénote quelque chose. Ça prouve qu'on sait plus ce que c'est vraiment que l'adoration qui s'adresse à Dieu, qui est un acte unique pour Dieu. Je ne peux pas adorer une créature. Vous savez, c'est important de voir ça. Je ne peux pas m'adorer moi-même. Je ne peux pas adorer mon ami. Je ne peux pas adorer une créature inférieure à moi. Je ne peux adorer que Dieu. Et l'adoration est la seule attitude par laquelle la créature se présente face au Créateur. C'est pour ça que dans la loi donnée à Moïse, c'est le premier commandement, hein, un seul Dieu tu adoreras. Et c'est important parce que le contenu, vous voyez, hein, la loi donnée à Moïse, elle est révélée parce que Dieu se révèle à l'homme par miséricorde. Mais dans son contenu, elle est une éthique religieuse. L'Ancien Testament, c'est une éthique religieuse. Alors, qui implique, vous voyez, une attente, parce qu'il y a déjà la foi à partir d'Abraham, hein, l'attente du Christ. Mais le contenu de la loi, c'est une éthique religieuse. Oui, hein. C'est pour ça que ce serait intéressant de regarder les 10 commandements dans une éthique religieuse. C'est une éthique religieuse. Et oui, tout repose sur l'adoration. Un seul Dieu, tu adoreras. Et vous savez ce que dit Jésus, hein. La loi tient en deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Vous voyez, le regard sur Dieu, qui est l'adoration, et qui rectifie le lien que nous avons avec les autres. Et saint Paul dit, hein, toute la loi se résume à l'amour du prochain et à l'amour de Dieu. Toute la loi. Donc tout ce qui est dit, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu respecteras ton prochain, etc. Tout ça, c'est le fruit de l'adoration dans les rapports humains les uns avec les autres. Alors bien sûr, la loi est donnée par Dieu, hein, pour nous préparer au mystère du Christ, mais dans son contenu objectif, elle est celle d'une éthique religieuse. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ça. Vous voyez, c'est... La créature se présente au Créateur, j'allais presque dire, vous voyez, c'est la seule manière pour une créature de se présenter face à Dieu. Elle ne peut pas se présenter en dehors de l'adoration. Tout le reste est mensonger. Si vous traitez Dieu comme un égal, c'est plus ça. Dieu, c'est celui dont je dépends actuellement. Mais ce n'est pas un acte qui me tyrannise, c'est un acte d'attraction par rapport à lui. Parce que je reconnais que c'est dans l'amour qu'il me regarde et qu'il me crée. Vous voyez, premier aspect. Hein. Alors, oui, ça va engager, hein, de bien comprendre que l'adoration est d'abord une attitude intérieure. Hein. L'acte d'adoration est intérieur. Donc, il relève de mon âme spirituelle. Pour ça, je dis que c'est un acte volontaire. Mais puisque c'est un acte humain, hein, cet acte intérieur, oui, il assume aussi tout ce qui est à l'extérieur. Vous voyez, là, il y a un regard en éthique religieuse nouveau. Ce lien entre l'intériorité et l'extériorité. Et qu'on a déjà vu hier, si vous vous rappelez, à propos de la distinction entre l'intention de vie et le choix. Et l'intériorité, c'est celle de l'âme spirituelle, qui se tourne vers Dieu dans l'adoration. Mais puisque c'est un acte qui prend toute la personne, vous voyez, dans l'adoration, je reconnais que dans tout ce que je suis relatif à lui. Et donc ça porte, et ça exige aussi, que tout ce qui est à l'extérieur soit transformé par l'adoration. Donc tout le corps. Et c'est pour ça qu'il y a un geste d'adoration. Oui, c'est pas commode d'adorer couché, vous comprenez, hein. Et, ou bien et debout. Alors, c'est, le geste debout, ça signifie qu'on est face à quelqu'un d'égal à égal. Le geste d'adoration, c'est comment le corps à la fois manifeste l'attitude de l'âme et dispose l'âme. Et le corps est un serviteur. Au niveau, oui, c'est intéressant, oui. Au niveau religieux, on voit le corps comme quelque chose qui nous sert. Oui. Il a un aspect de serviteur. Et donc, oui, il est tout entier ce qui m'aide à me tourner vers Dieu dans mon âme spirituelle. Et donc, il dispose, oui, comme toujours, hein, il dispose et il est un fruit. Et cela dispose, et c'est ce que dit Aristote. Hein. C'est une petite remarque qui est intéressante. Aristote dit ceci, il dit « La disposition... quand la forme substantielle est présente, devient une propriété. Et la disposition, quand la forme substantielle est présente, devient une propriété. Par exemple, oui, quand je suis dans l'ordre, ça c'est donc dans l'ordre du devenir. Quand vous êtes dans le devenir biologique, par exemple, vous avez des quantités de disposition. Et au point de départ, dans l'embryon, toutes les virtualités sont très indéterminées. Oui, comme on lisait au réfectoire, il y a une seule cellule au point de départ, et qui contient en puissance tout le vivant. Bon, ce sont des dispositions, vous comprenez. Ce n'est pas explicite. Et d'où hein, la difficulté d'intervenir à ce niveau, parce qu'on ne sait pas à quoi on touche, on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis petit à petit, ça se diversifie, ça s'explicite. Et la forme substantielle pour le vivant, c'est l'âme. Vous voyez, c'est intéressant, oui. Le biologiste n'atteint dans le corps que les dispositions matérielles et organiques. Il n'atteint pas l'âme. Le biologiste ne connaît pas l'âme. Il ne connaît que les dispositions du corps. Mais quand je connais la forme substantielle, ça c'est le regard de la philosophie, je comprends que ces dispositions sont des propriétés. Vous voyez, toute la diversification du corps, tout ce que le corps va impliquer comme ordre organique, ne se comprend pleinement que par rapport à l'âme. C'est important, vous voyez, de voir ça. Alors oui, on pourrait dire ça ici, au point de vue de l'attitude religieuse. Le corps dispose à l'adoration. Et faire un geste religieux, quelque chose qui m'aide à me mettre en présence de Dieu. Et je rentre dans un lieu religieux, je me mets à genoux, je me prosterne. Vous savez, il n'y a rien de plus insupportable que les gens qui sont là comme des piquets. Mais alors quoi, vous voyez, qu'est-ce qu'on vit ? L'impression que tout va bien, oui, rien ne se passe. Mais... Oui, ça montre combien on est cérébraux, vous voyez. Si on avait vraiment plus le sens de cette unité substantielle de l'âme et du corps, on comprendrait comment le corps nous dispose. Et que quand la forme substantielle, c'est-à-dire voyez, l'intériorité de l'adoration est présente, le corps est comme une propriété. Il faut, notre corps doit devenir religieux. Il ne l'est pas par lui-même. Notre corps doit devenir religieux, et donc, à part la dimension de la consécration à Dieu. C'est en éthique religieuse qu'on peut en parler. C'est l'adoration qui nous consacre à Dieu. Parce que l'adoration, c'est nous remettre dans la source. Eh bien, ça exige que toute notre personne soit entraînée. Et c'est pour ça que, hein, j'y reviendrai peut-être cet après-midi à propos des vertus propres, la vertu de chasteté n'apparaît dans une éthique religieuse. Parfaite. La vertu de chasteté parfaite n'apparaît dans une éthique religieuse, pas dans une éthique humaine. L'éthique humaine, c'est un exercice humain de l'instinct. Mais l'éthique religieuse, puisqu'elle implique peut impliquer la consécration à Dieu, peut impliquer que tout le corps soit consacré à Dieu. Et donc c'est ça que ça veut dire. C'est pas du pharisaïsme, vous voyez, c'est la disposition, la forme substantielle. Donc vous voyez, ce qui vient déterminer, hein, la détermination, elle vient de l'adoration intérieure et la propriété. Le corps qui dispose, si on adore vraiment, il devient comme, entre guillemets, propriété. Prenez, je parle analogiquement. C'est-à-dire, il est relatif. Et ça veut dire que faire un geste religieux sans que l'intériorité de l'adoration soit présente, ça ne signifie rien. Et c'est exactement ce qu'on voit au début de la Genèse, Caïn et Abel. Vous savez, parce que les gens disent, oui, c'est quand même invraisemblable, Dieu agrée l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Mais c'est injuste, il a des préférences. Donc c'est normal que Caïn soit jaloux. Ah mais attention, c'est parce que le geste de Caïn n'est pas vrai. Caïn fait le geste de l'adoration sans que son cœur soit tourné vers Dieu. Et qu'est-ce qui nous montre ça ? Le texte de la Genèse est très précis. Il est dit, Abel offrit les premiers-nés de son troupeau ainsi que de leur graisse, tandis que Caïn offrit les fruits de la terre. Oui, hein, il donne à Dieu, je suis sûr qu'il a donné à Dieu les choses les moins bonnes. Hein, les choses secondaires, vous voyez, les fruits de la terre. Oui, hein, ce qu'on pouvait donner à Dieu, ce qu'on ne pouvait pas s'en servir, oui, les fruits un peu gâtés. C'est qu'Abel donne ce qu'il y a de meilleur. Oui, l'adoration implique ça. Quand on adore, on donne tout ce qu'on est, donc ce qu'on a de meilleur. On ne garde pas pour soi la part hein, qu'on estime être la nôtre. L'adoration, c'est un don radical, parce que c'est comprendre que tout ce que je suis revient à Dieu. Pour ça, je vous ai dit hier, hein, l'adoration va me faire prendre conscience que ce qu'il y a de plus grand, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est très important ce qu'on voit ça dans toutes les traditions religieuses. Le mythe de Prométhée implique la même chose. Lisez Hésiode, vous verrez ce que dit Hésiode. Il dit que le mythe de Prométhée, c'est des choses catastrophiques qui se présentent, parce que hein, Prométhée, voulant adorer Zeus, donc fait un sacrifice. Et alors, il fait la part entre ce qui est pour lui et ce qui est pour Zeus. Mais vous voyez, il est mensonger, parce que en fait, il met de côté voyez, hein, la viande, la meilleure, qu'il recouvre avec la fiente et les peaux. Donc apparemment, c'est les déchets, vont être brûlés. Et puis, il met les os et les déchets recouverts par la graisse. Donc apparemment, c'est ce qui est le meilleur. Et alors, Hésiode dit, hein, et Zeus, hein, à l'intelligence pénétrante, vit le cœur de Prométhée. Et donc, il arrache la peau et la graisse et il met en lumière à dire, ton sacrifice n'est pas vrai. Et c'est intéressant de voir ça, hein, que les Grecs ont senti que l'orgueil, c'est le mensonge dans l'attitude religieuse. Vous voyez, c'est donc faire comme si j'adorais Dieu alors que je ne l'adore pas. Vous voyez, donc, qu'il y ait un geste qui fait croire que j'adore, alors qu'en fait mon cœur n'est pas vers Dieu. Vous voyez, c'est très étonnant, et ça c'est propre à l'éthique religieuse. Hein. Donc ça fait comprendre jusqu'au bout la vérité de tout ce que nous sommes, vous voyez, la vérité de nos paroles, la vérité de nos gestes. Et l'adoration vient nous purifier dans ce domaine. Pour nous rendre réalistes dans tout ce que nous sommes. Est-ce que oui, vraiment, en tout ce que je suis relatif à lui. Et donc, oui, ça va venir. Pour ça que j'y reviendrai tout à l'heure à propos de l'amour d'amitié. L'adoration va venir donc purifier de l'intérieur toute notre sensibilité. Pour qu'elle soit vraiment en vérité. Vous voyez, c'est important de bien voir ce lien entre intériorité et extériorité. Vous voyez qu'on le voit différemment de ce qu'on voit dans l'amour d'amitié. Au niveau religieux, l'adoration est un acte intérieur et elle assume, elle exige d'assumer notre corps. Donc, dans le point de vue du geste religieux. Et quand ce geste devient communautaire, c'est ce qu'on appelle la liturgie. La liturgie, c'est au niveau communautaire. Vous voyez, là, il y aurait beaucoup de choses à développer. L'éthique religieuse implique un regard sur l'adoration, sur le sacrifice. Le sacrifice, c'est le geste d'adoration qui implique le corps. Et qu'est-ce que c'est que le sacrifice religieux ? Mais c'est manifester intentionnellement que tout ce que nous sommes revient à Dieu. On sacrifie un taureau ou un mouton pour manifester que c'est nous qui nous offrons à Dieu. C'est là qu'on voit aussi le passage de l'éthique chrétienne. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux dit, tant que le Christ n'était pas venu, on faisait des sacrifices d'animaux qui ont comme rôle symbolique de manifester que nous nous offrons à Dieu jusque dans notre corps. Et donc nous offrons notre vie temporelle à Dieu. Notre vie et notre mort appartiennent à Dieu. Et ça implique tout ça. Donc, le point de départ de notre vie, comme le terme de notre vie, la naissance et la mort. Parce que si je suis religieux, je comprends que mon âme spirituelle a été créée par Dieu. Donc que le point de départ de ma vie appartient à Dieu, dans ce qui est le plus profond. Et que le terme lui appartient. Dieu est maître de la vie et de la mort. Donc dans l'adoration, j'offre à Dieu ma vie temporelle jusqu'à ma mort. Et ce qui manifeste cela, c'est le sacrifice qui, à travers un geste symbolique, exprime l'offrande de toute ma vie. L'éthique chrétienne montrera le sacrifice du Christ, qui s'immole lui-même parce qu'il est Dieu. Et donc, à partir du Christ, les sacrifices d'animaux, dit l'Épître aux Hébreux, n'ont plus de sens. Il a offert l'unique sacrifice qui plaît à Dieu. Et c'est... Alors, vous voyez, posez aussi la question demain. Qu'est-ce qui est propre au sacrifice dans l'éthique chrétienne? C'est ce qu'on vit tout le temps, hein. Donc c'est important, oui, de bien voir ça, hein, tout ce que ça va impliquer. Oui. L'adoration est intérieure, elle exige le sacrifice qui implique le corps, et elle s'incarne communautairement dans la liturgie. Alors on reviendra tout à l'heure sur l'ouverture à la contemplation, et puis toutes les conséquences que ça a dans notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.